Bonjour à tous, c'est avec plaisir et bienvenue à cette série de cours 2021 qui vont traiter, comme vous le voyez ici, des techniques de diagnostic et d'autoréparation pour des batteries plus performantes. Ce que je compte faire cette année, c'est couvrir directement ces différents aspects indiqués dans ce programme, dans lequel vous aurez 5 ou 6 cours qui vont être dédiés. Dans un premier temps, vous allez voir aujourd'hui, c'est une introduction générale, je dirais que ça va être relativement léger au niveau scientifique. Mais ensuite, ça va se corser lorsqu'on va partir dans la théorie du diagnostic et l'appareillage, ainsi que tout l'aspect optique qu'on va voir cette année. Et ensuite, ces cours seront doublés de séminaires, où il y aura 3 séminaires, je dirais, que je qualifierais un peu d'historiques. Et ce sera Dominique Larcher, ici présent, qui vous les fera, où il traitera tout d'abord des aspects thermodynamiques, ensuite des aspects, je dirais, historiques de la part du lithium et également des MnO2. Et les 3 autres séminaires seront sur la détection RMN, détection optique infrarouge, et la 3e sera tout simplement le séquençage de l'ADN appliqué aux batteries. D'où voilà. D'où, comme je n'ai pas fait cours l'an dernier, eh bien, je vais dans un premier temps vous rappeler un peu les événements qu'il y a eu dans le domaine avant réellement d'enclencher sur ce qui se passe aujourd'hui et ce que nous allons faire. Alors je commencerai tout d'abord par un rappel dont vous savez tous maintenant, j'espère, c'est que finalement, on va regarder dans ce cas le stockage électrochimique de l'énergie, qui est une conversion, tout simplement, d'énergie chimique en énergie électrique, et cela grâce au système qu'on appelle, ou le dispositif qu'on appelle les batteries. Et bien sûr, il y a plusieurs types de batteries, comme indiqué ici, dont vous connaissez tous, les batteries au plomb, les batteries nickel-cadmium, nickel-métal-hydrure, nickel-zinc, nickel-hydrogène et lithium-ion. Et bien sûr, la technologie la prédominante aujourd'hui, c'est la technologie lithium-ion qui suscite beaucoup d'engouement dans notre société. D'où je vais rappeler également, qui sera primordial pour tout ce cours, ce qu'est cette technologie lithium-ion. Ce n'est rien d'autre qu'un système d'accumulateur dans lequel vous avez 2 électrodes. À la différence essentielle, c'est qu'en ce cas, vous avez des électrodes qui sont des électrodes d'insertion, des composés d'insertion qui vont pouvoir directement absorber et relarguer le lithium durant la charge ou la décharge. Ces performances se traduisent par cette courbe, là aussi vous allez en voir beaucoup dans cet exposé cette année, dans laquelle vous tracez le potentiel en fonction de la capacité, avec quand même des relations importantes, notamment la densité d'énergie n'est rien d'autre que la surface au-dessous de cette courbe, avec la formule qui vous donne la densité d'énergie en fonction du potentiel multiplié par la capacité, dans laquelle le potentiel eh bien, c'est simplement la tension de sortie de la batterie, c'est-à-dire la différence de potentiel redox entre les réactions tandem qui se produisent à chaque électrode, et la capacité étant la quantité d'électrons délivrés par une batterie de 1 kg. Alors bien sûr, cette courbe électrochimique, elle est riche d'informations thermodynamiques qui vous seront montrées par la suite par Dominique Larcher, mais je vais attirer votre attention que ce qui est important d'un point de vue énergétique, lorsque vous allez utiliser ces dispositifs, c'est tout simplement l'efficacité énergétique. Et cette efficacité énergétique sera d'autant plus meilleure que, finalement, la polarisation, c'est-à-dire la séparation entre la charge et la décharge, sera relativement mince. Donc voilà, si vous voulez, ce que sont cette batterie à ion lithium ou toutes ces batteries. Et maintenant, je voudrais un peu vous montrer ou mettre en perspective les recherches dans ce domaine et vous montrer, finalement, que la recherche dans le domaine des batteries avance presque à la vitesse d'un glacier. En effet, si vous regardez les progrès qu'il y a eu vis-à-vis du nombre d'années, vous pouvez voir ici la batterie au plomb, ensuite la batterie nickel-métal-hydrure. Vous pouvez voir ici qu'en moins, en plus de 100 ou 200 ans, eh bien, la densité d'énergie a à peine été multipliée par 2 ou 2,5. Et ce n'est que, finalement, avec la technologie à ion lithium, comme vous pouvez le voir ici, que cette énergie a directement doublé en 30 ans. Mais bien sûr, lorsqu'on compare avec les progrès qui se font en microélectronique et ainsi de suite, on est très loin de la loi de Moore, où la capacité de stockage double tous les 18 mois. Et là, on pourrait s'amuser de voir finalement qu'est-ce qui se serait passé, où est-ce qu'on en serait, si finalement on avait pu avoir les mêmes progrès au niveau directement du stockage électrochimique. Et pour ce faire, eh bien, je vais mettre ici tout simplement la batterie au plomb en 1860, et supposer qu'on double directement la densité d'énergie tous les 18 mois, et bien finalement, en 1928, bien l'énergie d'un kilogramme de batterie serait tout simplement celle de la première bombe atomique. Si on continue ainsi, en 1950, et bien on s'aperçoit directement qu'une batterie d'un kilogramme pourrait produire toute l'énergie nécessaire à la Terre pendant 1h20. Et enfin, finalement, si on continue jusqu'en 2006, eh bien, 1 kg pourrait directement produire toute l'énergie, finalement, qu'on consommerait pendant 50 000 ans. Vous voyez directement qu'on est très loin de nos objectifs, et la raison est simple, c'est tout simplement c'est qu'on est limité par la chimie. Et cette chimie, elle est complexe, et elle va directement être pluridisciplinaire, entraîner des matériaux, des électrodes, des électrolytes, et ainsi de suite. Et si on regarde l'arbre géologique de la batterie, comme indiqué ici, et vous apercevez directement que ces recherches ont commencé en 1949, avec, d'ailleurs, ce qui est intéressant, les technologies lithium-soufre, dont on entend encore parler aujourd'hui, et avec tout un tas de matériaux d'électrodes. Et tout ça, je dirais, ça a été un effort conséquent de la part de chimistes inorganiciens, organiciens, et ainsi de suite. Et grâce aux prouesses de cette technologie, eh bien, finalement, elle a été allouée directement, excusez-moi, le prix Nobel en 2019, à ces trois chercheurs que sont Stanley Whittingham, John Godinoff et Aira Yoshino. Stanley Whittingham a été le premier à Exxon à développer directement la batterie TS2 lithium et déjà à l'époque, il avait visualisé ou engendré également la technologie ou l'électrode négative à alliage lithium X aluminium Y dans laquelle il avait fait. John Godinoff, je dirais, c'est vraiment le master des matériaux d'électrode, car tous les matériaux d'électrode qu'on utilise aujourd'hui, que ce soit lithium CO2, le spinel ou le lithium phosphate, et ainsi de suite, tout ça provient des recherches, je dirais, de John Godinoff. Et enfin, Akira Yoshino a été la personne qui, lui, a finalement rassemblé toutes ces recherches, tant au niveau des électrodes positives que des électrodes négatives à base de carbone, en y ajoutant les meilleurs électrolytes pour faire la première démonstration de la batterie, je dirais, lithium-ion. Donc voilà, si vous voulez, le scénario dans lequel on est. Alors ensuite, en dehors de ces personnes, il y a quand même un autre personnage, qui est Elon Musk, qui a également joué un rôle essentiel dans, directement, le business des batteries. Pour dire, il a tout simplement donné un coup de pied à la fourmilière et fait en sorte, finalement, que ce domaine avance. Et pour cela, eh bien, son objectif était finalement de produire des batteries à très bon marché qui soient utilisées partout dans le monde et quand on le veut. Et vous voyez qu'il a réussi à prévoir des coûts de $100 du kilowattheure, des coûts qui ont été également confirmés par GM. Et en septembre, il a même fait directement une annonce supplémentaire que théoriquement, dans les années 2030, on pourrait certainement arriver à des coûts de $60 ou 60 euros du kilowattheure. Donc voilà, si vous voulez, les progrès qu'il y a dans ce domaine, avec, bien sûr, la construction de ces fameuses usines qui sont capables de sortir des milliards de batteries par an, qu'on appelle les gigafactories. Et bien, tout ça, si vous voulez, ça va tout simplement engendrer une révolution, tant dans le monde des fabricants que dans le monde des utilisateurs, mais même certainement, comme on verra à la fin de ce cours, dans le monde de la recherche. Donc voilà, les avancées dans ce domaine. Et tout cela a conduit au boom du véhicule électrique, où à ce jour, vous avez plus de 450 modèles de véhicules électriques qui existent. Si on regarde les prévisions, on aura des ventes de véhicules électriques qui devraient dépasser les 150 millions en 2040, mais également un autre marché qui est celui tout simplement des renouvelables, où là, également, il était estimé qu'on pourrait passer de 3 ou 4 gigawattheures à des 1300 gigawattheures en 2040. Donc, comme vous pouvez le voir, tout ça, ça fait des quantités de batteries énormes et c'est une expansion spectaculaire de la production annuelle de la batterie. D'où, pour satisfaire à ces demandes, aujourd'hui, au travers du monde, c'est la course à ces fameuses gigafactories. Bien sûr, en Asie, où là, elles sont en fonctionnement, ou en Europe, où là, il y a pas mal de projets de construction de gigafactories, dont notamment Northvolt, qui sont très avancés, Tesla, qui construit une gigafactory à Berlin, et en France, c'est tout simplement les gigafactories de ACC, qui est directement l'œuvre de Saft, PSA, et ainsi de suite, et également une autre qui est en train de se concevoir, qui est Verkor. Donc voilà, si vous voulez, le scénario aujourd'hui dans le monde des batteries. Alors, qu'est-ce que cela doit changer? Si je regarde finalement la répartition de ces batteries mondialement, vous apercevez qu'à ce jour, eh bien, l'Europe ne figure qu'à la hauteur de 1% comparé à l'Asie qui domine totalement ce marché et avec, je dirais, cette poussée de Gigafactory qui seront installées à l'Europe, eh bien, peut-être on pourra, en 2029, eh bien, atteindre 17%, je dirais, de la production totale de batteries. Donc voilà, si vous voulez, ce qui en est au niveau des batteries à ion lithium. Alors, lorsqu'on voit ces chiffres, on pourrait croire que finalement, la recherche dans ce domaine est totalement finie, mais il serait naïf de croire qu'il n'y a pas encore des domaines où on peut directement améliorer. Et vous allez voir, il y a encore de nombreuses pistes de recherche à poursuivre. Ces pistes de recherche, eh bien, on peut les énumérer selon quatre types. Tout d'abord, la densité d'énergie. Là, il y a des efforts à faire. Il y a également la charge rapide. Tout le monde vous parle qu'on veut des batteries qui puissent se recharger en 5 minutes. Et vous allez voir, tout ça directement, ce n'est pas vrai. Il y a également l'aspect sécurité, et surtout, et pas des moindres, l'aspect éco-compatibilité, comment concevoir de tels systèmes dans le cadre du développement durable. Bien sûr, je ne vais pas directement aller dans tous ces domaines de recherche, mais je voudrais vous montrer finalement qu'en est, où est-ce qu'en est l'état de l'art dans ces différents secteurs. Si on regarde le cas de l'autonomie, eh bien, il y a des recherches colossales au niveau des matériaux d'électrodes, avec les phases, les oxydes lamellaires, que vous connaissez tous, qu'on appelle les oxydes NMC, ou alors la nouvelle génération des oxydes lithium-rich, indiquée ici. Avec également une évolution du côté d'électrodes négatives, où on passe finalement maintenant du carbone, avec certainement des électrodes composites de silicium dans les 3 ou 4 ans à venir. Tout cela eh bien, va vous donner, comme vous pouvez voir ici, des densités d'énergie volumique de 700 watts par litre et aux alentours de 340 watts par kilogramme. Et bien sûr, on veut des autonomies supplémentaires et la question qui se pose est qu'y a-t-il au-delà de ce fameux lithium-ion ? Et là, ça a été l'engouement de ces trois dernières années sur les nouveaux électrolytes. Remplaçons le liquide que l'on trouve dans le cas du lithium-ion par des électrolytes solides et ce qui conduit tout simplement aux batteries tout solides. Batterie tout solide, dont vous avez directement une représentation schématique ici, eh bien, a définitivement sur le papier des avantages. Des avantages au niveau sécurité, puisque maintenant vous n'avez plus d'électrolyte liquide, mais également des avantages au niveau des énergies densité, que ce soit volumétrique ou gravimétrique, ou si maintenant on remplace l'électrode négative qui est le carbone à lithium-ion par du lithium, mais on pourrait avoir des augmentations de plus 40% en watts par litre et plus 60% en watts par kilo. Et bien sûr, avec la possibilité, comme indiqué ici, d'avoir des configurations bipolaires, c'est-à-dire de cas, dans le cas de collecteurs de courant, peut directement, je dirais, supporter l'électrode positive et l'électrode négative. Donc voilà directement ce que l'on peut escompter de ces batteries tout solides. Maintenant, qu'en est-il réellement ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel a été finalement le déclencheur de notre technologie? Eh bien, le déclencheur a de nouveau été les recherches sur les matériaux. C'est les recherches sur les électrolytes au cours des années qui ont fait en sorte qu'en 2011, eh bien, des chercheurs japonais ont pu identifier des électrolytes dont les conductivités étaient, je dirais, égales, voire supérieures à celles des électrolytes liquides. Tout ça, je dirais, c'est les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles. Eh bien, c'est que finalement, la problématique des interfaces, qui est récurrente à tous les systèmes de batteries, eh bien, je dirais, est ici aussi importante que dans le cas des technologies liquides lithium-ion. Car en effet, on a encore des problèmes de dendrites, que ce soit même des électrolytes solides, avec là aussi toute une engineering qui doit se développer pour finalement trouver des moyens ou des méthodes ou des directions pour finalement faire en sorte qu'on supprime ces dendrites lithium. Mais récemment, il y a eu, je dirais, des découvertes qui sont relativement importantes, dont je dois citer ici, notamment un papier de Samsung qui a été publié en l'été 2020, où ces chercheurs ont montré finalement qu'ils pouvaient arriver à faire des batteries tout solides sans finalement anode de lithium, mais en y mettant tout simplement une composite carbone dans laquelle étaient dispersées des particules d'argent. Et par ce fait, eh bien, ils ont pu montrer la possibilité de diminuer ces problèmes de dendrites et obtenu les résultats indiqués ici, qui sont assez impressionnants, si on va dire, pour des systèmes tout solides, dans lesquels vous pouvez avoir ici la courbe en rouge qui indique tout simplement l'efficacité coulombique qui est de 99,8% avec le cyclage qui va jusqu'à 1000 cycles avec les conditions indiquées ici des régimes de 1C, c'est-à-dire que toute l'énergie a été directement récupérée ou réintégrée en une heure. D'où voilà directement ces résultats, je dirais, assez impressionnants. Et ces résultats impressionnants sont également transcrits dans le monde du business, puisque là aussi, il y a, je dirais, une activité énorme avec de nombreuses compagnies qui se lancent. Et notamment, je citerai cette compagnie QuantumScape, qui est financée par Volkswagen, Bill Gates et Continental, et qui ont fait une annonce très récemment sur des performances également relativement surprenantes sur de tels systèmes. D'autres compagnies, eh bien, vous avez ici Solid, qui là aussi développe finalement des batteries tout solides avec une fois de plus des annonces sans arrêt. Alors la question qu'on peut se poser dans ce monde, c'est est-ce qu'il s'agit réellement d'effets d'annonce ou pas ? Finalement, QuantumScape utilise, je dirais, le secret, ou je dirais vraiment l'innovation, c'est qu'ils ont, comme vous pouvez voir ici, un séparateur, qui est un séparateur céramique, c'est-à-dire, en ce cas, vous avez des feuillets de céramique très minces qui sont des grenats. Et ils sont flexibles. Et ça, c'est l'innovation. Et lorsqu'on regarde les performances obtenues avec de tels systèmes, elles sont relativement impressionnantes au niveau, finalement, en cyclage, où ils ont pu dépasser les millicycles. Également en performance, vous voyez qu'à moins de 30 degrés C, eh bien, la performance est totalement et relativement correcte. Et également, en termes de sécurité, vous voyez ici, tout simplement, des analyses thermiques qui montrent l'avantage de passer directement du liquide au tout solide. Donc la question, si vous voulez, c'est finalement, les résultats sont très prometteurs, bien qu'il y ait un non-dit. Et en effet, le non-dit est le suivant. Les batteries QuantumScape ne sont pas entièrement tout solides, car il y a du liquide à l'électrode positif. Donc là aussi, c'est le monde des batteries. Donc construire une batterie tout solide pour des applications du monde réel est difficile, et c'est tellement difficile que personne n'y a encore réussi aujourd'hui. Et je pense que pour finalement vous donner l'état de la situation aujourd'hui, eh bien, j'ai repris un paragraphe qui a été publié de cela deux semaines dans certains articles AutoWeek, un journaliste américain, John Michalucci, qui écrit « Les constructeurs automobiles pourraient être en mesure d'installer des batteries tout solides dans les voitures d'ici la fin des années 2020, c'est-à-dire 2030, mais cela pourrait être au départ une vitrine pour la technologie, pas encore une proposition de marché viable. Elles seront beaucoup plus chères que les batteries conventionnelles. » Donc voilà, si vous voulez, où en est la recherche sur ces batteries tout solides, c'est-à-dire qu'il y a encore des verrous de technologie énormes à lever, mais il ne faut pas désespérer. Un autre secteur dans lequel les choses évoluent rapidement, c'est la charge rapide. Et là aussi, la question, c'est comment minimiser le temps de charge de votre batterie ou de votre véhicule électrique. Et la difficulté, c'est que la charge rapide est plus difficile que la décharge rapide en raison de la problématique des dépôts de lithium. Pourquoi ? Je vais tout simplement l'expliquer par de simples courbes où je trace ici le potentiel redox du système avec ici le potentiel redox du lithium et celui du graphite. Donc voilà directement une batterie lithium-ion dont je trace le potentiel de l'électrode positive et le potentiel d'électrode négatif. D'où, à faible régime, eh bien, vous pouvez voir que tout se passe très bien. Maintenant, si je vais augmenter le régime de charge, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? C'est que je vais créer une polarisation, et vous voyez que maintenant, le potentiel du graphite eh bien, passe directement en dessous du lithium. Et ça veut dire qu'en ce cas, vous n'avez pas automatiquement des dendrites, mais vous avez un dépôt de lithium, et ce dépôt de lithium, bien sûr, va créer une problématique importante. D'où par conséquent, pour contrecarrer bien cette difficulté, ce qu'ont fait les chercheurs, c'est tout simplement qu'ils ont modifié l'électron négatif et ils ont utilisé des matériaux de type lithium 4, Ti5, O12. Et à ce compte-là, vous voyez maintenant, vous êtes en potentiel de 1,2, 1,3 volts et malgré que vous faites des charges rapides, eh bien, il sera difficile de passer en dessous du potentiel de lithium. Donc voilà, et ça, c'est ce qui a conduit à la Super-Fast Charging Lithium-Ion Battery, qui est la fameuse SCIB de Toshiba. D'où ça, c'est des systèmes rapides. La question maintenant, il faut les recharger. Et là aussi, il y a des difficultés. Si on veut recharger en 5 ou 10 minutes, eh bien, je vous montrerai que les quantités d'énergie qu'on est en train de considérer sont phénoménales. En effet, si je prends une Zoé de 50 kWh, comme indiqué ici, via la puissance d'alimentation de 600 kW, avec un potentiel de 400 volts, il me faudra tout simplement du 750 ampères. Et maintenant, la question, c'est comment vous allez directement amener ou alimenter ce courant directement à votre véhicule électrique. Il va falloir directement des fils très épais, avec le risque de dépôt de lithium et d'échauffement. Donc c'est la raison pour laquelle les charges en 10 minutes, eh bien, malgré ce que vous pouvez voir dans la littérature, eh bien, elles sont pratiquement impossibles à ce jour. Et d'ailleurs, vous avez un très bon article dans Le Monde sur ce problème de recharge rapide. Alors, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui dans ce domaine? Eh bien, si je vais maintenant montrer, par exemple, le cas de la Zoé, dans lequel vous avez une courbe qui est relativement complexe, je ne vous demande pas de regarder tous les axes, juste j'attire votre attention sur la courbe en vert, ici, qui est la charge. Et ce qu'on va faire, c'est que, regardez, pour charger directement de 10 à 30%, il va me falloir 15 minutes. Et si je veux charger de 10 à 80%, il va me falloir 60 minutes. Eh bien, aujourd'hui, la charge de 15 à 80% prend à peu près 45 à 50 minutes. Si je prends maintenant la Tesla, le dernier modèle, avec les superchargeurs, eh bien, dans ce cas, vous avez une autonomie directement de 490 km par rapport à 350. Vous avez ici la courbe. Vous voyez que là aussi, eh bien, si je veux charger de 15 à 80%, eh bien, il va me falloir aux alentours de 25 minutes, comme indiqué ici. Donc ça veut dire que finalement, la charge rapide aujourd'hui n'est pas possible, et la meilleure solution, et certainement celle qui sera envisagée dans le futur, eh bien, que sur les autoroutes, eh bien, il faudra tout simplement mettre des stations de recharge beaucoup plus rapprochées pour faire des recharges partielles de 50 à 60% qui vous permettront finalement de tenir et qui ne prendront que 10 à 15 minutes. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se passe. Alors maintenant, qu'est-ce qui se fait au niveau de recherche dans ce domaine? Eh bien, là aussi, il y a des études intéressantes dont je vais partager certaines entre vous. Ces études intéressantes, eh bien, elles vont tout simplement regarder l'influence de la charge à chaud, c'est-à-dire à des températures plus ou moins élevées. Pourquoi? Parce que vous savez tous certainement que dans une batterie, il y a deux phénomènes. L'un va être la décomposition de l'électrolyte qui va directement créer cette couche SEI. Et ça, c'est des réactions chimiques, réactions parasites, qui vont être activées cinétiquement, d'où elles vont être activées en température. Et bien sûr, si maintenant vous allez à basse température, vous avez des limitations de diffusion du lithium et vous allez avoir du dépôt de lithium dendrite. Et vous pouvez voir ici que j'ai tracé ça avec une échelle logarithmique en fonction de 1 sur T pour vous montrer directement que ces réactions, eh bien, elles suivent tout simplement une loi d'Arrhenius. Et vous voyez finalement que pour avoir le meilleur compromis, c'est-à-dire la plus faible perte de capacité, eh bien, je dois travailler dans ce cas à la température de 20 degrés C si je suis en régime de 1 C. Par contre, maintenant, si j'augmente ma charge, c'est-à-dire que si je veux charger beaucoup plus rapide, vous voyez que ces courbes vont se déplacer. Vous voyez que maintenant, lorsque je passe de 1C à 2C ou à 3C, eh bien finalement, la température de charge la plus efficace ne va plus être 20 degrés, mais va être directement 35 ou 38 degrés. Donc tout cela pour montrer que eh bien, lorsqu'on va essayer de faire des charges rapides, eh bien, on va essayer d'utiliser le paramètre température avec nous pour faire en sorte d'avoir une charge plus courte sans affecter la durée de vie de la batterie. Donc voilà le type de recherche qui se fait dans ce secteur actuellement, mis à part, bien sûr, de jouer une fois de plus sur la morphologie des matériaux et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, le second point de la charge rapide adressée. Le troisième point que je voudrais maintenant mentionner sont les points liés directement à l'éco-compatibilité ou au développement durable. Et là aussi, il y a trois points que je vais mentionner. Tout d'abord, dans le choix des matériaux, dans le choix des éléments chimiques, ou un peu des éléments chimiques, métalloperiodiques, qui est faible toxicité, abondant, peu coûteux, et ainsi de suite. D'où on va se résumer souvent à des composés à base de manganèse, de fer, voire de titane. Ensuite, il y a l'aspect recyclage. Et également, il va y avoir également d'augmenter la durée de vie des batteries pour diminuer l'empreinte CO2. Et là, ça va être ce que je vais vous présenter au niveau du diagnostic. Alors, dans le premier cas, eh bien, pour augmenter cette éco-compatibilité ou développer des systèmes dans le cadre du développement durable, eh bien ça a ouvert, je dirais, toute une panoplie de recherches vers de nouveaux systèmes. Et là, Eh bien, j'ai résumé un peu toutes les technologies qui sont étudiées aujourd'hui pour pallier, si je peux dire, à ce développement durable avec les batteries lithium-mer, les batteries lithium-soufre, les systèmes redox flow, et ainsi de suite. Là aussi, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites, mais aucune de ces technologies, finalement, n'est mature à ce jour, excepte la technologie sodium-ion, qui, elle, présente un avantage indéniable au niveau développement durable, puisque vous savez tous que le sodium est beaucoup plus abondant que le lithium. Et bien cela a conduit à un développement, je dirais, assez spectaculaire, et déjà à la création de compagnies, notamment une compagnie Tiamat, qui profite d'une chimie adaptée pour la puissance, et qui, dont les batteries sont fortement convoitées pour le 48 volts mini-hybride. Mais il y a également d'autres compagnies, notamment Faradium, en Angleterre, dans le Royaume-Uni, qui sont basées sur des composés lamellaires, et également une compagnie chinoise sous le nom de HINI, qui, elle, déjà fournit à une masse de production de 60 000 par mois, batteries par mois. Donc voilà, si vous voulez, où est-ce qu'en est cette recherche sur les batteries sodium-ion. Ensuite, eh bien, il y a les problèmes de recyclage, et là aussi, il faut être bien conscient du volume de batteries qu'on est en train de regarder. Rappelez-vous, je vous ai mentionné les Gigafactories. Bien sûr, on se projette un peu dans 10 ou 15 ans, avec les quantités d'énergie, les 700 GWh, eh bien, on est en train de parler à 150 Wh par kilo, il y aura des 5 millions de tonnes de batteries à recycler par an. Et pour cela, eh bien, là aussi, il faut dévier des méthodes classiques. Et les méthodes classiques, à ce jour, sont deux méthodes, la pyrométallurgie, qui est une méthode qui consomme pas mal d'énergie, qui a lieu, je dirais, à 1100 degrés, après vous broyez les matériaux, et vous avez l'autre méthode qui est l'hydrométallurgie, qui est certainement à plus basse température, mais qui utilise des quantités de solvants considérables. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de travaux qui sont simplement dédiés à modifier ce recyclage et à développer ce que j'appellerais des méthodes directes, c'est-à-dire que des méthodes qui vont directement récupérer ces matériaux d'électrode sans aller jusqu'à leur décomposition chimique. Et enfin, une autre voie qui se lance, c'est tout simplement de repenser finalement la configuration des batteries. Car les batteries, que ce soit les batteries MnO2, elles ont la même forme, la même configuration depuis plus de 100 ans. Et pourquoi pas envisager dans le futur des batteries de type Lego, dans lesquelles chaque composant serait indépendant et que l'on puisse directement en changer l'un ou l'autre, ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, un peu toutes les recherches qui se font dans ce domaine. D'où, maintenant, eh bien, je vais tout simplement passer aux ces batteries et comment on va tout simplement les rendre plus durables en améliorant leur performance. Et là, ce que je vous ai mis, c'est finalement tout le procédé en chaîne qui vous permet de construire un accumulateur. On va tout d'abord commencer au choix du matériau, l'atome, l'ion. Quel élément on va prendre? Quelle est sa propriété? Quelles sont ses propriétés redox, et ainsi de suite. Ensuite, il va y avoir la structure du matériau qui va devenir importante. Tout ça, c'est des choses qu'on sait relativement bien faire, vous allez voir. Par contre, après, eh bien, on va tomber sur directement, maintenant, faire l'électrode. L'électrode, ça va être une composite. Et cette composite, maintenant, il va y avoir des paramètres importants qui sont moins familiers, que sont la porosité, la tortuosité, la connexion, le compactage, ainsi de suite. Et là, il va falloir aussi voir quelle est la science derrière pour avoir accès à ces paramètres. Et enfin, la cellule et surtout le système, c'est-à-dire comment cette batterie va se comporter dans un véhicule électrique. Et cette approche systémique va être directement primordiale pour, je dirais, déterminer quel va être directement l'avenir d'une technologie. Alors ce que je vais faire maintenant, eh bien, puisqu'on commence directement à arriver lentement vers le diagnostic, je vais vous montrer les techniques qui ont été développées. D'abord, au niveau du laboratoire pour les matériaux, ensuite, pour les électrodes, pour les cellules, avec, bien sûr, la grosse partie qui va être pour l'approche systémique. Alors, au niveau du laboratoire, et là, vous allez tous les reconnaître, il y a eu un développement colossal de techniques in-situ. Techniques in-situ qui sont des techniques de RMN, des techniques de RPE, des techniques de microscopie et beaucoup d'autres techniques, comme indiqué ici. Et comme vous pouvez voir ici, la tachographie, qui est tout simplement une technique d'information, de méthode imagerie pour reconstruire finalement ou pour directement détecter les défauts, les lacunes de ce matériau. Il y a également, bien sûr, la microscopie à force atomique, la spectrométrie photoélectronique et le Raman, l'infrarouge, la balance à quartz, ainsi de suite, qui ont été des méthodes développées pour suivre tout ce qui se passe. Bon, je vais juste vous montrer deux exemples de ce qui se fait. Je vais prendre tout d'abord un exemple qui a été développé dans le cas des systèmes métallaires, c'est-à-dire dans le cas des systèmes sodiomères. Et ici, vous voyez une étude de microscopie in situ par transmission. Vous apercevez dans ce cas l'électrode avec le porte-échantillon. Vous voyez ici la batterie à l'intérieur. Vous avez tout simplement ici des fenêtres de silicium. Vous avez la contre-électrode, l'électrode de référence et l'électrode de travail qui, dans ce cas, tout simplement, est du carbone. Et ce qu'on va faire ici, c'est directement, vous avez la courbe cycloaltamétrique électrochimique dans laquelle vous avez le potentiel redox aux alentours de 2,27 volts et on va voir la réaction former directement l'oxyde sodium peroxyde et qui, directement, va conduire à la formation, je dirais, de cubes qui vont se trouver à la surface directement des fibres de carbone. Et la question là est de savoir est-ce que cette réaction se fait tout simplement par la solution ou alors directement à l'état solide. Et pour ce faire, eh bien, on a pu tout simplement in situ voir la formation sur ces fibres de carbone de ces fameux cubes de cette phase NaO2. Et on peut voir directement que cette formation, cette nucléation croissance se fait à partir de la solution avec, vous voyez, la partie, si je peux dire, qui est par simple couleur noire à l'intérieur qui correspond à la phase NaO2, mais il y a également à la surface quelques réactions parasites qui donnent des produits de décomposition. Donc voilà, si vous voulez, un exemple de ce qu'on peut faire. Un autre exemple, et cela vous sera plus détaillé, je dirais, par le séminaire que vous aurez la semaine prochaine, se trouve au niveau de l'électrode de silicium. Ou maintenant, on va pouvoir suivre par RMN ce qui se passe dans l'intercalation du lithium dans le silicium. Et là aussi, eh bien, ce qu'on regarde, c'est finalement la phase qui est ici, lithium-15-SI4. Et lorsqu'on arrive à cette phase, eh bien, on s'aperçoit finalement que dans le signal RMN, eh bien, on a là aussi, une fois de plus, voilà. Vous voyez qu'en ce cas, on s'aperçoit finalement que lorsqu'on arrive à cette position, on a une autodécharge. Et cette autodécharge, eh bien, on l'interprète par la formation d'un domaine solide solution autour de cette phase lithium-15-SI4. Mais cette phase étant très réactive, eh bien, lorsqu'on va laisser le matériau en autodécharge, eh bien, elle va directement retourner vers tout simplement sa phase de départ qui est lithium-15-SI4. Et bien sûr, on peut faire beaucoup d'autres choses avec ces techniques, notamment au niveau de l'imagerie. Et une fois de plus, on vous en parlera directement dans la séance la semaine prochaine. Donc voilà, si vous voulez, tout ce qui se fait au niveau des matériaux d'électrode. Et je dirais, aujourd'hui, on est quand même, je dirais, très bien outillé pour regarder tous ces problèmes d'interface, ainsi de suite. Maintenant, on va avoir un problème plus compliqué, qui est cette fameuse électrode. Et là, ce niveau d'électrode, eh bien, il faut, finalement, déterminer la porosité, déterminer la tortuosité, connaître la taille et forme des pores, savoir comment toutes ces particules avec le carbone, avec le liant, je dirais, s'enchevêtrent, quels sont les défauts, ainsi de suite. Et là, par contre, eh bien, il va y avoir des techniques qui vont être un peu différentes de celles que vous êtes habituées, et ça va être les techniques que je vais appeler les techniques de tomographie X assistée par ordinateur. Ce n'est rien d'autre que la reconstruction du volume de l'objet, tout simplement, à partir d'une série de mesures effectuées depuis l'extérieur. Et je vais un peu vous décrire, sur cet exemple, ce qui se passe. Alors là, l'accumulateur ou la batterie est juste mis de façon schématique, mais on est en train directement de regarder une partie d'électrode et voyez directement ce qu'on peut obtenir par cette technique, c'est-à-dire on peut reconstruire le volume à partir de coupes que vous prenez l'onde d'électrode. Okay ? Et lorsqu'on regarde cela, eh bien, on s'aperçoit finalement qu'on détecte très bien entre les particules, je dirais, qui ont l'air relativement blanches ici, qui sont le NMC, et le noir, qui est finalement, dans ce cas, le liant plus le carbone. Et si on regarde finalement ici, on s'aperçoit que finalement, on n'arrive pas à détecter la différence entre un pore et du carbone. Si on regarde maintenant une photo SIM, eh bien, dans ce cas, on voit très bien en surface la répartition. Et pour avoir accès, je dirais, à la même qualité, eh bien, dans ce cas, les chercheurs ont fait une double analyse tomographique en prenant directement une référence, je dirais, un blanc de carbone et de particules avec de liant. Et grâce à cela, eh bien, ils ont pu tout simplement, comme vous pouvez voir ici, eh bien, mimer, si je peux dire, exactement la photo de microscopie. Ça veut dire que maintenant, eh bien, on a la possibilité, vous allez voir par la suite, d'aller voir à l'intérieur d'un accumulateur et de reconstruire finalement ces électrodes en différentes fractions et savoir tout ce qui se passe. Et à partir de ça, bien sûr, vous pouvez déterminer des porosités, des tortuosités, et vous pouvez directement remonter à tous les modèles pour savoir quel va être le comportement finalement de l'accumulateur. Vous repassez à des calculs mathématiques, des exploitations d'images, et vous pouvez, comme indiqué ici, savoir quels vont être l'effet des courants sur ces électrodes. Alors, ce que vous regardez ici, c'est tout d'abord, tout simplement, la configuration. Vous avez le lithium séparateur, votre électrode positive, qui est NMC, et le collecteur de courant. Eh bien, ce que je vais faire maintenant, je vais décharger mon accumulateur, c'est-à-dire que je vais directement, dans ce cas, insérer du lithium, dans le lithium CO2, c'est-à-dire que mes lithium arrivent ici. Et regarde finalement ce qui se passe en fonction du régime de cyclage. Vous voyez que si j'augmente mon régime au début, vous avez directement les particules sont relativement lithiées, les NMC sont totalement lithiées, c'est homogène. Et au fur et à mesure, directement, que je vais augmenter mon régime, bien, je m'aperçois qu'en ce cas, bien, le degré de lithiation va être plus important du côté séparateur et va s'estomper au fur et à mesure qu'on va vers le collecteur de courant. De la même façon, ce qui est relativement normal, dans ce cas, il y en a la même chose pour la concentration d'électrolytes. Et ce qui se passe, dans ce cas, c'est que vous avez une compétition entre la réaction cinétique d'intercalation du lithium et le transport de masse, qui est le lithium. Et bien sûr, lorsque vous avez un régime trop rapide, eh bien, les ions lithium n'arrivent plus à être fournis directement à votre réaction, et c'est la raison pour laquelle eh bien, les particules ne sont pas uniformément lithiées au travers de votre matériau. Ensuite, parce qu'on peut également regarder finalement le flux de lithium dans ces systèmes, et on s'aperçoit ici que ces flux de lithium eh bien, sont plus importants dans les nanopores ou dans les régions, je dirais, d'électrolytes qui sont notamment les plus concentrés. Et ça aussi, c'est, je dirais, c'est très important, car ça va créer des problèmes d'échauffement qui vont être néfastes à la batterie. Et enfin, le transfert de charge, eh bien, bien sûr, il est une fois de plus corrélé avec, tout simplement, le degré de lithiation et l'électrolyte. C'est-à-dire, si vous avez des particules qui sont bien mouillées, vous allez avoir un bon transfert de charge, et ce transfert de charge, je dirais, où les particules seront d'autant plus lithiées qu'elles seront petites par rapport à des particules plus massives. Donc voilà, si vous voulez, ce que, actuellement, la recherche tente d'effectuer à partir de cela, et bien sûr, on peut modéliser les diagrammes de Dragon, et ainsi de suite. Alors, une étude plus détaillée qui se fait sur une électrode et qui est relativement intéressante, c'est maintenant, c'est qu'on a ces électrodes, on a leur porosité, mais ce qui devient important, c'est le compactage. Et plus vous allez compacter, plus vous allez diminuer, dans ce cas, la taille des pores et abaisser les performances. Et là, vous avez tout simplement un appareil qui vous permet directement de faire une étude. Vous avez la source des rayons X, vous allez mettre directement votre échantillon, votre spécimen, sur cette presse qui va par traction ou compression, et vous allez tout simplement, dans ce cas, découper à la hauteur, je dirais, toutes les microsecondes, vous allez prendre directement des photos de votre objet et reconstituer cette image. Et vous avez ici, finalement, ce qui se passe au niveau compression. Et ce qu'on voit, c'est que maintenant, si on prend cette image et on compresse, et on s'aperçoit bien sûr, ce qui n'est pas une surprise, c'est que la taille des pores diminue, et on voit même des particules, tout simplement, qui peuvent directement se réorienter les unes par rapport aux autres, en fonction directement du taux de compaction. Et on peut, dans ce cas, voir tout simplement la différence avec le taux de compaction, la taille des particules, et en déduire tout simplement, je dirais, la porosité de ces pastilles, de ces électrodes, ainsi que la tortuosité, et à partir de cela, eh bien là aussi, on peut utiliser ces paramètres et remonter à des diagrammes de Ragone et prédire les courbes électrochimiques. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se fait, je dirais, au niveau des électrodes. Alors maintenant, eh bien, on va passer à une échelle, je dirais, supérieure, et on va passer maintenant à la batterie elle-même, c'est-à-dire à la cellule 1850. Et cette cellule 1850, eh bien là aussi, on peut maintenant l'étudier in situ aux grands instruments. Et vous avez ici une manip de neutrons dans laquelle vous avez directement l'accumulateur ou la batterie du 2050 qui est placée, comme vous pouvez voir indiqué ici. Et là, maintenant, on va faire directement de la radiographie neutronique. Et là, l'avantage, c'est qu'avec les neutrons, eh bien, on va pouvoir avoir accès directement au lithium et on va pouvoir avoir accès à la répartition du lithium à l'intérieur de l'accumulateur, mais également à l'électrolyte qu'on n'aura pas tout simplement accès par l'électrolyte. Et là, ces études qui se font avec, bien sûr, l'inconvénient, c'est que ça demande, par exemple, d'avoir des temps d'expérience de 4 ou 5 jours sur de grands instruments. D'où je vais montrer un peu ce qui se fait au niveau de la tomographie X. Voilà ce qui se fait au niveau de la tomographie neutron. Et bien sûr, ce qu'ont fait les chercheurs, ou ce que font les chercheurs aujourd'hui, c'est qu'ils essaient finalement de coupler les deux, de façon à avoir finalement, je dirais, rentrer réellement dans la vie privée de la batterie. Et je vais vous montrer une étude maintenant de ce qui se passe lorsqu'on fait ce genre d'études. Là, vous regardez un système qui est un système lithium anode 2, avec votre batterie ici, qui est une batterie cylindrique, et on est en train de regarder finalement, dans ce cas, la tomographie X. Et la tomographie X, eh bien, comme vous l'avez dit, l'absorption, eh bien, dans ce cas, eh bien, va augmenter avec, je dirais, le nombre atomique de l'élément. C'est la raison pour laquelle, dans ce cas, les parties, je dirais, les parties blanches, si je peux dire, sont, dans ce cas, les collecteurs de courant de nickel, alors que le reste, directement, est, je dirais, les éléments plus légers. Mais ce qu'on peut voir, dans ce cas, c'est également les déformations qu'il y a dans le bobinage de la batterie, et ainsi de suite. Et, pour avoir des informations plus importantes, on peut regarder cela en fonction du cyclage, et là, on s'aperçoit, finalement, lorsque vous faites votre accumulateur, on peut, même avant que la batterie, je dirais, soit cyclée, détecter où seront les points faibles. Et vous pouvez voir, on aperçoit directement des craquelures à côté du collecteur de courant de nickel. Ce qui veut dire qu'en ce cas, il n'y a pas une bonne mouillabilité de votre électrode avec les collecteurs de courant. Ensuite, on peut voir que dès qu'on va cycler, eh bien, ces craquelures, tout simplement, vont se développer, comme vous pouvez voir ici. On voit également ce qui se passe au niveau des connecteurs de courant, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on arrive directement d'un niveau morphologie à rentrer à l'intérieur de cet accumulateur. Ça, c'est l'information que l'on a. Maintenant, si on veut l'information sur plus ou moins les réactions de transport, le lithium, et ainsi de suite, eh bien, on coupe ça avec le neutron. Et là, avec le neutron, eh bien, je peux voir où est-ce que le lithium, où est-ce qu'il va se déposer, est-ce qu'il se dépose de façon uniforme, et également, je peux avoir accès maintenant à l'électrolyte. Et vous pouvez voir tout simplement que, dans ce cas, eh bien, il y a un dessèchement d'électrolyte où vous ne voyez plus directement l'électrolyte à l'intérieur de l'accumulateur. Donc tout cela, eh bien, comme vous pouvez le voir ici, ça vous donne, je dirais, une image précise de ce qui se passe à l'intérieur de nouveau de nos systèmes. Mais la difficulté de tout cela, eh bien, c'est qu'il y a besoin de grands instruments pour faire toutes ces mesures. Mais ça donne quand même, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de papiers qui sortent sur ces couplages de tomographie X et tomographie neutron. Enfin, un autre avantage que je voudrais vous montrer pour étudier de tels systèmes, de cette tomographie, va être indiqué à le transparent suivant. Alors, ce que vous regardez ici, c'est une expérience relativement intéressante dans laquelle, vous savez que des batteries, eh bien, si vous avez un point chaud qui se développe, il peut y avoir une explosion. C'est-à-dire, elles peuvent directement partir en flammes. Et la question qui se pose, c'est finalement, comment cela se passe et est-ce qu'on peut l'étudier? Alors, ce que vous avez ici, c'est rien d'autre qu'une manip d'X-ray tomographie dans laquelle votre cellule du 2050 va être placée directement sur ce pivot qui va tourner à grande vitesse. Et là, vous avez directement un sèche-cheveux pour chauffer tout simplement la batterie, et bien sûr, vous allez tourner votre batterie pour ne pas de chauffer tout simplement à un seul point. Et vous avez ici une caméra infrarouge. Et là, vous avez tout simplement la décomposition des slides ou des découpes tomographiques de votre batterie. Donc ce qu'on va regarder finalement maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe in situ lorsqu'une batterie va prendre feu. Alors, vous avez tout d'abord, on est en train ici de partir sur une batterie qui est en 4 volts, une lithium-ion qui est de 2,6 ampères, et elle est tout simplement à l'état chargé. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, avec le sèche-cheveux, on va augmenter sa température et on regarde ce qui se passe. Et on s'aperçoit finalement qu'il y a la formation d'un point chaud. Il y a également ensuite un dégazage et ensuite directement un emballement thermique. Et ce qui est important, vous voyez le temps qui sépare ces deux événements, c'est en quelques secondes. Et bien là, on va pouvoir directement, par de nouveau ces mesures d'X-ray tomographie, on va pouvoir tout simplement découper l'onde de la batterie et savoir toutes les microsecondes comment ce volume intérieur de la batterie va évoluer. Et vous apercevez ici directement la séparation de l'électrode positive et de l'électrode négative, vous apercevez réellement tout ce qui se passe à l'intérieur. Et voilà directement des films que l'on peut obtenir, où vous voyez, en fonction de la température, eh bien, voir tous les décollements, les délaminations, et ainsi de suite. Et on peut également, en même temps, puisque derrière, rappelez-vous, il y avait une caméra, eh bien, on peut tout simplement, dans ce cas, obtenir aussi ce qui se passe au niveau de la propagation de la température allant du point chaud jusqu'à l'intérieur, et ainsi de suite. D'où voilà, si vous voulez, ce qu'on peut regarder avec ce système, d'où l'importance de suivre les hétérogénéités lors, je dirais, de l'assemblage de ces batteries pour anticiper ces points chauds qui seront primordiaux pour directement l'aspect sécurité. Et ce genre d'études, maintenant, devient, je dirais, routine. Je vais en partager une autre avec vous, qui est celle-ci, où dans ce cas, on va coupler une fois de plus la tomographie avec tout simplement l'infrarouge. Vous avez tout simplement ici une cellule de 50. Bon, pour votre culture, ça c'est assez intéressant parce que ça vous montre réellement comment ces cellules sont faites, dans laquelle vous avez ici la borne positive. Vous avez également la valve de sécurité. Vous avez le contacteur d'électrode positive et vous avez ce fameux PTC switch, c'est-à-dire qui est un interrupteur dans le cas où la température devient trop élevée. Et là aussi, si on fait tout simplement des mesures en fonction des courants, eh bien on peut s'apercevoir que, d'abord, dans ce cas, vous pouvez voir, si je regarde la reconstruction de la batterie, je n'aperçois aucun défaut. Et je regarde maintenant quelle va être la réponse en fonction d'une augmentation de régime. Et je vois tout simplement que dans ce cas, eh bien je vais avoir un échauffement, une température qui va s'élever fortement du côté de cette électrode positive. Et cela, tout simplement, provient non pas des problèmes à l'intérieur, mais tout simplement des problèmes de contact, de résistance à l'intérieur directement du système. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se fait, je dirais, au niveau de l'électrode. Alors c'est grâce à toutes ces, je dirais, ces techniques, qu'ils soient des techniques, vous avez vu, au niveau des matériaux, que ce soit des techniques au niveau de l'électrode, et même des techniques, je dirais, aux grands instruments sur les accumulateurs, qui font en sorte que la technologie à ion lithium a évolué au point de fiabilité où elle en est aujourd'hui. Et en effet, à ce jour, cette technologie à ion lithium est relativement fiable, du moins au niveau du laboratoire. Et ça, je dirais, c'est un papier des plus importants qui a été publié par Jeff Dunn en 2019, dans lequel il rapporte les performances intrinsèques des systèmes lithium-NMC, dans ce cas du 5-3-2, c'est-à-dire 50% de nickel, 30% de manganèse et 20% de cobalt, à des températures de 20 degrés, 40 degrés C. Et ça, c'est des tests qui ont été accélérés pendant 3 ans. Il montre finalement eh bien, que ces températures, ces batteries à 20 degrés C eh bien, peuvent tout simplement suffire pour avoir 3 millions de kilomètres. Bien sûr, cela est réduit à 40 degrés C, mais comme vous pouvez le voir, eh bien, cette technologie à ion lithium, elle est relativement maîtrisée. Alors la question qui se passe, eh bien, maintenant, c'est qu'effectivement, ça, c'est des manips de laboratoire. On sait maîtriser les cellules, mais qu'en advient-il si on met tout simplement ces cellules maintenant dans un système? Et c'est là, si vous voulez, que va être la problématique de ce cours, où on va tout simplement regarder ce qui se passe. Et en effet, si on regarde au jour d'aujourd'hui, eh bien, le problème majeur de ces technologies, c'est cette fameuse SEI, cette fameuse solid electrolyte interface. Et cette solid electrolyte interface, eh bien, c'est une réaction chimique, d'où qui est cinétiquement bien accélérée, d'où la température est essentielle. Et si on regarde finalement ce qui se passe, ou ce qui se fait dans les véhicules électriques aujourd'hui, eh bien, voilà directement ce qui se fait. C'est-à-dire que vous avez ici votre batterie, votre système, votre batterie PAC, dans lequel vous avez la cellule. La cellule est assemblée en modules, et ces modules sont assemblés pour faire un battery pack. Et c'est ça que vous mettez directement dans votre véhicule électrique. Eh bien, on mesure à ce jour la tension, le courant, et on a déduit directement la résistance, et à partir de cette résistance, on a des abacs qui nous permettent directement de déterminer la température. C'est-à-dire qu'on n'a aucune idée de ce qui se passe au niveau de la cellule, à la surface, et encore moins à son intérieur. Et ça, si vous voulez, ce n'est pas viable. Ce n'est pas viable, pour, maintenant, pour les applications réseau. Si on part, finalement, de donner une seconde vie à la batterie, eh bien, il faut comprendre comment, tout simplement, cette batterie va être utilisée ou quel est son état de santé avant directement de la recycler pour des applications, je dirais, grilles, et ainsi de suite. D'où il faut une meilleure traçabilité de ces batteries. Et c'est là où je vais en venir aux techniques de diagnostic. D'où, comme je vous le répète, au jour d'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on a tout simplement une surveillance externe. C'est-à-dire qu'on n'a aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur de ces systèmes. Et, bien sûr, ce qu'on veut faire, ou ce que les gens maintenant, ou la communauté tente de faire, c'est d'intégrer des capteurs pour avoir différents paramètres. D'où ces capteurs, eh bien, tout ça pour connaître l'état de santé de la batterie, c'est-à-dire finalement se rapprocher du domaine médical et voir comment on pourrait finalement traiter la batterie de la même façon que le corps humain, c'est-à-dire dans ce cas, eh bien, lorsque vous avez une opération, on utilise par exemple des fibres optiques pour transférer les informations de l'intérieur vers l'extérieur. Question, est-ce qu'on peut faire ça, la même chose, avec une batterie, et ainsi de suite. Et ça, c'est ce qui va demander toute la systématique d'injection de capteurs, bien sûr non destructifs, à l'intérieur de ces systèmes. Alors pourquoi eh bien, la communauté veut faire tout cela? Eh bien parce qu'on veut avoir accès finalement à toutes les métriques, tous les paramètres cruciaux dans une batterie. C'est-à-dire qu'on veut aller bien plus loin que le potentiel et le courant ou la résistance. On veut connaître réellement la température, comment celle-ci va être affectée si on augmente le régime, quelles vont être les contraintes au niveau de l'électrode, okay, quelle va être la résistivité, quelle va être la composition directement du lithium intérieur sur l'électrode, et surtout, cette fameuse SEI, est-ce qu'on peut directement avoir accédé à la dynamique de cette SEI. Donc si vous voulez, c'est tout ça qu'on veut directement savoir. Pourquoi on veut savoir tout ça? Eh bien, on veut tout simplement, directement, produire la quantité de données importantes au BMS, qui sont les systèmes de gestion de la batterie, qui vont nous permettre, dans ce cas, d'avoir des BMS beaucoup plus sophistiqués et beaucoup plus performants en termes, je dirais, de prédiction. Parce qu'il faut que vous voyez, il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, eh bien, en raison du fait qu'on ne connaît pas ces paramètres, eh bien, il y a certainement de 20% à 30% de la capacité réelle de la batterie qui est perdue ou qu'on n'utilise pas. Si on arrive à avoir ces fonctions avec, je dirais, des qualités fiables, eh bien, on pourra tout simplement, dans ce cas, eh bien, avoir une meilleure utilisation de la batterie. On va tout simplement mieux connaître son état de charge, son état de santé. On pourra doubler sa durée de vie, améliorer sa sécurité, et finalement, à la fin, on pourra être beaucoup plus éco-compatible, et ainsi de suite. D'où par conséquent, eh bien, ce qu'on va regarder dans ce cours, eh bien, c'est tout simplement comment apporter cette intelligence à l'intérieur de la batterie. Et tout cela, eh bien, va avoir deux conséquences. C'est-à-dire que ça va nous permettre d'avoir accès à des problèmes fondamentaux sur les interfaces, de mieux les connaître, mais également sera, je dirais, percussion, je dirais, importante à l'industrie, au niveau des étapes de formation, au niveau des étapes de contrôle, et ainsi de suite. D'où par conséquent, eh bien, c'est la raison pour laquelle il y a, je dirais, ce travail énorme à l'heure actuelle sur ce diagnostic. Alors la question qu'on peut se poser, c'est que je vous présente tout ça, c'est quelque chose de bien nouveau, mais là aussi, en science, vous allez voir que rien n'est bien nouveau, puisque si je regarde le diagnostic dans le domaine des batteries, eh bien, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais ça date directement de beaucoup d'années. Et le premier, je dirais, technique de diagnostic a été appliquée dans les batteries au plomb en 1887. Donc là aussi, vous voyez, il n'y a rien que nouveau. Et vous voyez tout ce type de diagnostic qui a été développé. Alors bien sûr, ce type de diagnostic, la plupart, comme on va le voir, eh bien, il va y avoir les méthodes diagnostiques électrochimiques, ce que je traiterai la prochaine fois. Il va y avoir bien d'autres méthodes, je l'appellerai des méthodes physiques, Et là, malheureusement, ces méthodes sont des méthodes physiques qui se feront par l'extérieur. Et enfin, il va y avoir des méthodes optiques que l'on va regarder, où là, eh bien, on va tout simplement aller prospecter à l'intérieur de la batterie. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce que ce cours va couvrir, avec, je dois avouer, une partie fort importante. Il y aura 4 cours sur tout ce qui est l'aspect optique, avec les différentes, je dirais, techniques pour le faire. Alors, je voudrais juste commencer, juste pour initier un peu à ce diagnostic, en commençant par la technologie la plus vieille, qui est la technologie au plomb. Et vous allez voir que la technologie au plomb, bien là aussi, il y a eu des recherches énormes pour connaître finalement quel est l'état de charge de la batterie ou quel est l'état de santé. Alors, la batterie au plomb, bien je dirais, c'était vraiment la technologie idéale pour tester ou pour développer des capteurs. Pourquoi ? Eh bien, la technologie au plomb, je pense que vous connaissez tous son fonctionnement, comme indiqué ici, avec la particularité de cette technologie, c'est que c'est une des seules, mis à part les technologies zinc MnO2, dont on verra plus tard, dans laquelle l'électrolyte participe aux réactions électrochimiques. Ça veut dire que lorsque vous allez charger ou décharger votre accumulateur au plomb, eh bien, vous allez directement modifier le taux d'acide sulfurique, excusez-moi, dans votre électrolyte. D'où vous allez directement changer directement sa viscosité et son indice de réfraction. D'où en 1887, excusez-moi, voilà directement la première technique ex situ, de définition ou de diagnostic de l'état de charge d'une batterie au plomb. C'est-à-dire qu'en ce compte-là, on utilise simplement un hydromètre qui est utilisé, ou qu'on utilise directement pour mesurer le taux d'alcool dans les moules de vin ou dans d'autres expériences. C'est-à-dire qu'en ce compte-là, vous avez ces genres de thermomètres qui sont lestés et gradués en fonction de l'indice de réfraction. Et dans ce cas, on peut tout simplement voir que la densité, lorsque la batterie est chargée d'électrolyte, est de 1,28 et lorsqu'elle est déchargée, de 1,14. D'où, pour connaître tout simplement l'état de charge, bien, il suffit directement, dans les anciennes batteries, vous pouvez tout simplement sortir, gérer le bouchon, mettre votre hydromètre et avoir une idée de l'état de charge de la batterie. Alors, bien sûr, ce n'est pas révolutionnaire, c'est ex situ, mais ça vous montre directement comment les gens pensaient à l'époque. Donc, voilà directement une expérience qui se fait. Ensuite, bien, ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir que c'est même dans le domaine des batteries au plomb que les gens ont déjà pensé à utiliser l'optique. Et là, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez tout simplement un prisme dans lequel, eh bien, vous savez qu'un prisme, ou la science qui est derrière tout ça, est liée tout simplement à la réflexion ou la réfraction d'un signal à une surface qui va dépendre de l'indice de réfraction du milieu. D'où par conséquent, si vous directement opérez avec un capteur qui est muni de ce prisme sur lequel vous pouvez alimenter directement par un faisceau lumineux, eh bien, vous allez pouvoir directement regarder la différence d'intensité entre le faisceau entrant et le faisceau sortant, et vous allez pouvoir en déduire, par les relations indiquées ici, quel va être finalement l'indice N2 du milieu. Donc voilà, si vous voulez, des genres de mesures qui ont été effectuées, et dans lesquelles, vous voyez, le capteur est adapté directement à l'orifice ici, vous pouvez directement mettre le capteur, et là, vous pouvez, je dirais, faire même du semi in situ, et savoir directement quel va être votre état de charge, votre état de décharge. Alors, ce qui est intéressant, et vous le verrez par la suite, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de ces capteurs optiques, eh bien, ou de l'indice de réfraction, dont on va souvent regarder, eh bien, malheureusement, cet indice de réfraction va dépendre de la température. D'où il va falloir, une fois de plus dans ce cas, eh bien, découpler la température de l'indice de réfraction. Et là, vous avez des manips qui montrent comment cet indice de réfraction varie. Vous voyez ici, l'indice de réfraction en fonction de la température. Et c'est la fraction du courant récupéré, c'est-à-dire par la diode, c'est le photocourant. Et montrer qu'il change en fonction de l'extrafraction. Donc il faut faire tout simplement, dans ce cas, cette correction en température que l'on peut faire par calibration. Et vous voyez ici que, si vous voulez, dans ce cas, ce prisme a été calibré, ce capteur a été calibré. Et ayant calibré ce capteur, eh bien, on peut maintenant suivre in situ une batterie au plomb. Alors vous avez ici ce qu'on peut suivre in situ. Alors c'est relativement compliqué, je vais essayer de vous le simplifier. Vous avez en rouge, qui est la variation de la densité d'électrolyte lorsque vous allez, dans ce cas, décharger votre accumulateur. Et la température, vous voyez ici en noir, change peu. Vous avez le courant de charge ici en bleu. Et ici, vous avez une zone directement de repos de la batterie. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, lorsque ma batterie va se décharger, eh bien, dans ce cas, je vais avoir une diminution de l'indice de réfraction. Et cette diminution de l'indice de réfraction, eh bien, elle va tout simplement me permettre de connaître l'état de charge, parce que je sais que dans l'état déchargé, eh bien, j'aurai une faible quantité d'acide sulfurique, d'où je serai dans ce cas une densité plus faible. Donc voilà directement ce qui peut se faire. Okay ? Et enfin, pour terminer aujourd'hui, eh bien, je vous montrerai encore quelque chose, vous êtes tous bien au courant, la fameuse micro-quartz balance. Mais cette fameuse micro-quartz balance a été étudiée également pour les batteries au plomb. Et en effet, je ne sais pas si je devrais vous répéter cela à vous, vous connaissez tout ça maintenant. Vous avez bien sûr, dans ce cas, cette balance micro-quartz n'est rien d'autre qu'un système piézoélectrique, dans lequel la particularité, eh bien, c'est que la vibration de votre quartz va dépendre de la masse à sa surface, selon cette fameuse relation qui est la relation de Savoy. Et, plus important pour nous, vous voyez que maintenant, on va pouvoir également, dans ce cas, tester au niveau de l'électrolyte, puisqu'on a de nouveau la variation de la fréquence qui va être fonction du produit de la densité par la viscosité. Donc, par conséquent, si j'ai une variation de la densité de la viscosité, qui est bien le cas dans le cas des batteries au plomb, puisque mon acide sulfurique va être consommé ou reformé lors des charges et des charges, je vais pouvoir directement suivre finalement ce qui se passe. Et dans ce cas, là aussi, très important de calibrer la température, de faire ces mesures dans des peintes thermostatées, dans lesquelles vous avez ici directement votre microbalance, que vous allez plonger par cet orifice dans votre batterie au plomb, et là, vous pouvez directement suivre la variation de fréquence, je dirais, en fonction, tout simplement, de l'état de charge de votre batterie. Okay ? Et vous voyez que, une fois de plus, que la batterie au plomb a vraiment alimenté beaucoup les recherches et les innovations au niveau du diagnostic. Bon, je pense que je vais arrêter sur cet exemple. Voilà. Et j'espère que je vous ai déjà donné un avant-goût de ce que va être le reste de ce cours. C'est-à-dire qu'on va parler beaucoup sur aller trouver finalement quels sont les paramètres clés pour s'assurer d'une performance et de durabilité des batteries au maximum, mais pas au niveau des électrodes, mais au niveau tout simplement du système. Comment intégrer mon accumulateur dans un système électrique, ainsi de suite, et m'assurer que je puisse aller voir ce qui se passe et en assurer au maximum. Donc sur ce, je vais arrêter, vous remercier, et pendant que le deuxième conférencier va se préparer, il va vous parler finalement comment on va pouvoir utiliser ces courbes électrochimiques pour faire la thermodynamique. Merci.